Accouche, un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. D'après de récentes données en Europe, entre 13 et 23% des enfants seraient en situation de surpoids ou d'obésité entre 2 et 6 ans. L'objectif de mes invités du jour est donc d'identifier les facteurs de risque liés au mode de vie familial associé au risque ultérieur d'obésité chez l'enfant et d'identifier des potentiels leviers d'action afin d'ébaucher des pistes de prévention. Les 1000 premiers jours de l'enfant constituent un moment propice pour prévenir l'obésité et promouvoir à plus long terme la santé de l'enfant. Plusieurs facteurs individuels de risque de surpoids de l'enfant ont déjà été identifiés. Statut pondéral de la mère, tabagisme maternel durant la grossesse, gain de poids rapide la première année de vie. Mais peu d'études ont adopté une approche globale, prenant en compte le mode de vie familial, comme l'alimentation, l'activité physique ou la sédentarité, l'indice de masse corporelle des deux parents. C'est donc de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui dans notre 11e épisode d'Accouche. Et pour en parler, je suis accompagnée de Marion Le Corguillet et Barbara Eudes. Bonjour mesdames.
Bonjour, nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui.
Moi aussi. Barbara Eudes, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et épidémiologiste. Vous travaillez au sein du CRES, le Centre de recherche en épidémiologie et statistique, dans l'équipe IRO, qui s'intéresse aux origines précoces de la santé de l'enfant et de l'adulte. Et vous coordonnez la cohorte Mère-enfant Eden. Cette étude a inclus plus de 2000 femmes au début de leur grossesse. Vous avez suivi l'évolution de leur enfant de la grossesse jusqu'à l'adolescence. Nous sommes également avec Marion Le Corguillet. Marion, vous êtes sage-femme de formation et chercheuse post-doctorante à l'INSERM au sein de cette même équipe IRO. Vous avez réalisé une thèse sur la nutrition maternelle, la croissance des enfants et l'épigénétique placentaire. Actuellement, vous vous intéressez aux stratégies de prévention de l'obésité infantile, c'est-à-dire à l'impact des facteurs liés au mode de vie familial dans ces fameux 1000 premiers jours de vie. Un projet également conduit au sein d'un consortium européen appelé End Obesity. Vous travaillez ensemble avec Barbara depuis 6 ans et j'ai une première question tout de suite à vous poser. Dans quel contexte, toutes les deux, vous avez décidé de vous intéresser à ce sujet ? Qui commence, Barbara ?
Alors, je vais commencer parce que notre équipe de recherche en épidémiologie s'intéresse depuis des années, bientôt 20 ans ou plus, à la question du surpoids de l'enfant. Dans le contexte où on sait que l'obésité, c'est un déterminant majeur pour la santé, il est une condition qui favorise l'apparition d'autres pathologies avec des coûts sociétaux importants. Et quand elle touche les enfants, elle touche aussi... les générations futures, car la proportion d'enfants obèses qui le restent à l'âge adulte est très importante. Donc, s'intéresser à l'enfant, c'est aussi s'intéresser à l'adulte en devenir. Et on s'intéressait à ces facteurs précoces parce qu'on observe très tôt, donc déjà l'apparition du surpoids, comme vous l'avez dit, dès l'âge de 2 ans, on constate des chiffres élevés. Mais aussi des inégalités sociales, ce qui veut dire qu'il y a des inégalités entre les enfants qui sont dues à des facteurs sociaux et qui pourraient être diminuées en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut faire quelque chose. Et en particulier, nos travaux à partir des cohortes, dont la cohorte Eden que vous avez mentionnée, nos travaux récents sur ce sujet ont montré que ces inégalités apparaissaient même avant l'âge de 2 ans. Donc c'est vraiment des phénomènes très précoces qui interviennent et c'est vraiment dans ce contexte qu'on s'intéresse à cette période des 1000 jours et aux facteurs familiaux autour de cette période.
Et vous alors Marion, pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble ?
Alors donc tout d'abord, enfin pour ma part, moi je suis sage-femme de formation et j'ai travaillé dans différentes maternités en France métropolitaine. Et puis je dirais qu'en lors des consultations avec les couples, avec les futurs parents, j'ai commencé à me questionner sur l'influence possible de certains comportements de santé dès la grossesse sur la croissance des enfants. Et comme vous avez très bien dit aussi au départ, c'est que certains facteurs comme l'alimentation de la mère, la consommation de tabac, sont associés au risque de surpoids de l'enfant. Et puis, je me suis demandé comment, en tant que professionnelle de santé, je pourrais aussi contribuer finalement à mieux conseiller les familles et à les accompagner voilà, sur toutes ces questions aussi de facteurs de risque au début de la vie. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis engagée dans un parcours recherche et que j'ai commencé à travailler donc dans l'équipe de recherche donc avec Barbara et donc sur aussi ces 1000 premiers jours de vie qui finalement est une fenêtre de susceptibilité mais aussi une fenêtre d'opportunité pour prévenir l'obésité de l'enfant. Et de manière globale, j'ai d'abord travaillé sur l'alimentation en particulier donc des parents en lien avec la croissance de l'enfant afin de mieux comprendre quels sont les facteurs nutritionnels précoces liés à la mère mais aussi au père qui peuvent en fait influencer
C'est intéressant, vous parlez aussi du père parce que on parle évidemment plus logiquement de la mère qui porte l'enfant etc. Mais maintenant, vous avez aussi un nouveau biais ou un nouveau terrain d'étude, c'est le père, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées, qui se sont intéressées aux facteurs liés donc à la mère, en fait, pendant la grossesse. Mais maintenant, il y a de nombreuses aussi études qui s'intéressent au rôle du père et qui peut aussi, en effet, être associé au comportement de santé maternelle. Et du coup aussi, par exemple, via l'alimentation, en fait, finalement, du couple peut influencer le développement de l'enfant.
Vous parlez beaucoup des 1000 premiers jours, on parle beaucoup des 1000 premiers jours, il y a un documentaire qui vient d'être diffusé aussi sur France Télé. Qu'est-ce que c'est que ces 1000 premiers jours ?
Alors, les 1000 premiers jours de vie, ils sont définis de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant et constituent une période déterminante pour le développement de l'enfant, qui contient finalement les prémices de la santé et du bien-être de l'individu tout au long de la vie. C'est aussi une fenêtre d'opportunité unique pour mettre en place des stratégies de prévention précoce du risque de maladies futures. Et c'est aussi, je dirais, un moment important, en fait, dans la vie des parents. C'est là où ils se posent de nouvelles questions et sont susceptibles d'effectuer des choix plus adaptés pour la santé de leur bébé. Et les sages-femmes jouent aussi un rôle primordial à cette période.
Et vous, Barbara, qu'est-ce que vous dites ? Comment vous définiriez ces 1000 premiers jours ?
Alors, Marion a très bien défini cette fenêtre. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on connaît cette fenêtre, on s'y intéresse depuis de nombreuses années, mais elle commence enfin à prendre la place qu'elle mérite dans l'esprit des acteurs institutionnels de la santé, sur la place publique, dont vous l'avez dit, avec des reportages, on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vraiment enfin la consécration de ce concept. Bon, c'est un peu une marque, évidemment, on ne va pas s'arrêter à 1000 jours pour s'intéresser à la santé de l'enfant.
Mais... Oui, le 1000e jour, on arrête.
Mais voilà, c'est vraiment pour mettre le projecteur sur cette période et mettre des moyens. Hein, vraiment institutionnel pour accompagner les familles dans la mise en place de la trajectoire. On parle de santé, mais aussi vraiment de bien-être pour les individus.
En fait, depuis 2019 aussi, les 1000 premiers jours, là où tout commence, ça a été initié par le gouvernement et finalement a fait aussi des 1000 premiers jours une priorité en action publique. Donc,
Et puis c'est là, ça paraît logique, c'est là où les premiers réflexes nutritifs, sportifs, en fait tous les premiers réflexes des parents avec l'enfant. Donc j'imagine que voilà, si on prend les bons réflexes,
les habitudes de mode de vie, et c'est vraiment à ça qu'on s'intéresse. Ouais.
Quels sont les facteurs d'obésité infantile déjà identifiés ?
Donc vous avez déjà un peu évoqué les plus importants, mais je voulais revenir peut-être juste sur d'où vient l'obésité. Ça résulte toujours d'un déséquilibre dans la balance énergétique, donc plus d'apports que de dépenses, hein, tout simplement. Mais à titre individuel, on est très inégaux face à la régulation de cette balance et à notre capacité à stocker ou ne pas stocker, et donc stocker de la masse grasse et avoir un tissu adipeux plus important. Et donc, il y a beaucoup de facteurs impliqués. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, une condition multifactorielle, qui vont considérer des facteurs très proches du moment où on évalue le surpoids, mais qui peuvent venir de moments beaucoup plus lointains. Et en particulier, nos travaux mettent l'accent sur des facteurs très précoces. Cette période des 1000 jours, la préconception, la grossesse, les premiers jours de vie, qui seraient responsables d'une sorte de programmation de ce qui va se passer dans l'enfance et jusqu'à l'âge adulte. Donc Marion, tu peux compléter.
En fait, j'en parlais tout à l'heure. Finalement, il y a plusieurs études qui ont rapporté un lien, par exemple, entre des facteurs maternels, comme un indice de masse corporelle élevé, la consommation de tabac pendant la grossesse, une prise de poids gestationnel excessive. en lien, donc, enfin, qui ont rapporté une association avec le risque de surpoids de l'enfant. Mais, comme je disais, il y a maintenant certaines études aussi qui rapportent le rôle du père dans tout ça, et qui rapportent que l'indice de masse corporelle élevé, par exemple, du père serait aussi un facteur de risque de surpoids chez l'enfant à long terme. Cependant, il y a encore peu de données sur le sujet, et je crois que voilà, il y a vraiment une nécessité aussi d'investir sur...
De continuer vos études, justement.
De continuer la recherche en ce sens. Et puis, donc après, il y a aussi d'autres facteurs dans les premières années de vie, comme un âge précoce à la diversification alimentaire, un comportement aussi sédentaire chez l'enfant, qui serait associé donc au surpoids à plus long terme. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, en recherche, nous avons principalement étudié des facteurs pris isolément, mais peu d'études ont recours à une approche plus globale qui permet finalement de prendre en compte de manière holistique un ensemble en fait de facteurs liés au mode de vie familial. Donc c'est tout l'objet en fait de nos travaux de recherche actuels.
Oui, j'ai entendu aussi la préconception, et ça aussi ça peut être un facteur de risque.
Alors oui, en effet, c'est l'exposition à des facteurs en période préconceptionnelle peut aussi en effet influencer le surpoids de l'enfant à plus long terme, et donc je pense que c'est vraiment important aussi de souligner que finalement il faudrait mener des actions de prévention dès la période préconceptionnelle.
Alors, vous mettez l'accent sur le rôle des comportements familiaux. De quoi s'agit-il, Barbara, par exemple ?
Donc, comme cela a été dit, cela concerne essentiellement des facteurs très connus autour du statut pondéral, de la prise de poids des mères au cours de la grossesse, de la consommation de tabac, de l'alimentation ou de l'activité physique. Mais on parle de comportements familiaux parce qu'on veut s'intéresser aux deux parents, quoi, comme on vient de le dire. Et surtout, on veut les intégrer, les étudier ensemble et voir comment, de manière synergique, ils peuvent être associés au risque futur de surpoids de l'enfant.
Pour répondre à cette question, nous travaillons à partir de deux larges cohortes de naissances françaises, et notre travail vise à identifier en fait des profils familiaux liés au mode de vie dans ces 1000 premiers jours de vie, et d'évaluer le lien avec le risque ultérieur d'obésité chez l'enfant. Et comme vous l'avez aussi dit en introduction, on travaille en fait dans le cadre d'un consortium européen qui s'appelle End Obesity, et on travaille avec différents partenaires dans d'autres pays en Europe, et l'objectif c'est de répliquer ces analyses à une échelle plus large, et c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir des comparaisons et d'avoir des conclusions finalement portées plus larges.
Et plus robustes, parce que les résultats montrent quand même que c'est très consistant entre les pays. Et donc,
c'est ce que j'ai demandé, est-ce qu'il y a une harmonie, si je puis dire, des données européennes ?
Oui, alors il y a une harmonie.
Où est-ce qu'on retrouve le même genre de chiffres en Europe, un peu partout ou pas ?
En tout cas, on trouve vraiment, on voit que ces comportements s'associent de façon similaire dans les différents pays, et que il y a les profils multicomportementaux qu'on identifie peuvent vraiment être décrits de la même façon aux Pays-Bas, en Irlande.
Et avec des forces d'association avec le risque de surpoids aussi, c'est similaire et comparable. Hein, donc, c'est vrai qu'avec... Donc oui, en termes de pays, on a répliqué ça aux Pays-Bas et en Irlande.
Et alors, comment on s'attaque au problème, Barbara, par exemple ?
Alors, il y a plusieurs angles d'attaque. En premier lieu, on développe une approche qu'on appelle observationnelle. Comme on l'a dit, on utilise des données de cohortes. Ce sont des travaux d'analyse statistique de ces données qui permettent de mettre en lien les données recueillies sur le plan de l'exposition avec le surpoids de l'enfant qu'on suit dans ces cohortes sur le moyen et le long terme. Donc ça permet de d'écrire et de comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Mais ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de savoir traduire ces observations, à la fois pour que ce soit compris par les acteurs de la santé, la prévention, la promotion de la santé, et in fine, traduire en action probante, efficace de prévention. Et donc, pour prouver que des actions sont efficaces, il faut faire de la recherche dite interventionnelle, où on va, par exemple, mener une intervention dans un groupe, avoir un groupe contrôle et comparer à la fin le taux de surpoids des enfants, par exemple. Et donc, on mène aussi ce type de travaux dans l'équipe. C'est une autre chercheuse en particulier qui mène ce type de projet. Et c'est aussi d'autres équipes du consortium européen. Et donc, on partage comme ça un peu nos expériences et nos expertises. Et donc aussi, comme je le disais, il faut communiquer autour de ces résultats, autour de l'importance de cette prévention précoce. Et c'est un peu ce qu'on fait avec ce podcast aujourd'hui.
Et vous, Marion, vous avez un autre angle, alors, par exemple.
Un angle complémentaire, je dirais, du coup, peut-être. En fait, c'est, je pense que c'est important aussi de travailler sur la formation des professionnels de santé. Et ça faisait aussi partie des propositions de la commission des 1000 premiers jours, de traduire finalement cette ambition par la formation. Et voilà, pour vous donner un exemple, moi j'essaye aussi, voilà, je fais de la recherche, mais en parallèle j'essaye de traduire les résultats de nos recherches auprès des professionnels de santé. Et j'ai récemment voilà, créé un module de cours aussi sur les 1000 premiers jours de vie en lien avec une école sage-femme. Et je pense qu'aussi une autre manière de faire, c'est finalement de participer par exemple à la création d'outils pratiques pour les professionnels de santé. Et donc j'ai également travaillé en collaboration avec le Collège National des Sages-Femmes sur notamment l'alimentation des par exemple des parents, et donc nous avons en fait publié des recommandations pour la pratique clinique. Et donc le Collège aussi national des sages-femmes crée actuellement des outils par exemple sur l'activité physique pendant la grossesse, qui me semble vraiment voilà indispensable en fait pour la pratique clinique.
Ça, c'est vrai qu'on en... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu mes enfants il y a assez longtemps et on ne parlait pas du tout de sport et femmes enceintes. C'est vrai qu'il est d'usage de dire bon, il faut qu'elles restent tranquilles, qu'elles ne fassent pas trop d'efforts. Et alors, justement, vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est important ?
Bah, en fait, je pense que oui. Et puis, il y a eu plusieurs politiques de prévention aussi en santé publique sur l'alimentation, notamment mangerbouger.fr, sur le PNNS, avec des messages aussi clés comme manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, je ne vais pas tous les citer.
Oui, mais, les a bien en oreille. Voilà.
Mais en tout cas... je pense que c'est vrai que sur l'activité physique, qui est aussi un facteur vraiment essentiel et un facteur aussi qu'on voit bien qui est donc lié aussi au développement de l'enfant par la suite et aussi pour le bien-être maternel finalement. Je pense que voilà, il y a un vrai travail à réaliser aussi sur l'activité physique, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que l'activité physique n'est pas possible en fait pendant la grossesse, et je crois qu'il faut voilà essayer de travailler vraiment là-dessus pour enlever finalement ces idées, ces stéréotypes.
Voilà. Est-ce que la natation, est-ce qu'il y a d'autres sports auxquels vous pensez?
Oui, alors en effet, donc il y a des contre-indications aussi parfois relatives et absolues en fonction de certaines situations, hein, mais il y a des sports qui sont tout à fait possibles. Déjà la marche hein, est considérée aussi comme un élément voilà pour le bien-être. Le yoga, il y a des choses aussi qui des sports plutôt qui va pas nécessiter d'impact hein, par exemple, ou la natation qui sont tout à fait aussi ouais, recommandées pour l'activité physique pendant la grossesse.
J'ai l'impression que c'est par la prévention que tout commence. Alors quelles sont les pistes de prévention que vous imaginez dès à présent?
Alors, moi, j'ai plusieurs idées en termes de pistes de prévention. Donc, en fait, pour finalement peut-être développer un peu ce plan d'action sur les 1000 premiers jours de vie et agir en amont et lutter, donc, par exemple, contre l'obésité infantile, moi, je pense fortement que davantage de mesures de prévention devraient être menées en période préconceptionnelle. Lors, par exemple, des consultations de prévention chez les adolescentes mineures ou lors des consultations de prévention gynécologique ou lors de consultations spécifiques, donc à la période préconceptionnelle. Donc, l'objectif, ce serait, voilà, par exemple, d'engager... finalement, les futurs parents ou donc les jeunes adultes à adopter un mode de vie favorable à la santé. Mais la question, c'est voilà, c'est toujours aussi comment faire, quel public cibler. Donc c'est pas voilà si simple. Mais en tout cas, il y a un travail à mener en ce sens.
Vous voulez dire que presque finalement, quand on va voir un médecin à 20 ans, et ben quand il parle de ne pas fumer ou de faire attention à son poids, ça serait en vue finalement d'adopter les bons réflexes lors d'une grossesse, c'est ça?
Oui, parce que par exemple, c'est vrai que la consommation de tabac, c'est quand même un problème. Enfin, en tout cas, en France, on a une prévalence de consommation qui est assez
encore aujourd'hui,
importante.
Hein, toujours aujourd'hui. Oui, ça n'a pas descendu.
Et notamment aussi chez les jeunes femmes, on observe voilà en tout cas une consommation de tabac importante. Et donc je pense qu'il faut vraiment voilà, sensibiliser en fait les jeunes femmes et leur expliquer que déjà aussi donc pour leur propre santé, mais aussi finalement voilà dans un projet futur que en effet le tabac c'est un facteur de risque voilà aussi pour le développement de l'enfant quoi. Deuxième voilà axe de prévention, donc c'est aussi une des propositions de la commission des 1000 jours, c'est je pense la création d'un référent parcours qui peut être intéressante, qui permettrait finalement d'assurer un parcours coordonné, de créer une relation de confiance avec les familles et de personnaliser la prise en charge de la grossesse jusqu'au postpartum.
C'est pas un peu justement ce qu'on fait avec une sage-femme?
Ah oui, alors en fait le référent parcours c'est finalement c'est une personne qui va être vraiment dédiée, et c'est d'avoir finalement une personne qui va accompagner, voilà, les parents aussi sur des, enfin, par exemple, si lors de l'entretien prénatal précoce, les familles ont défini, voilà, des axes, par exemple, d'adopter, voilà, de changer, par exemple, une habitude alimentaire ou d'autres choses au lien aussi dans le côté social. En fait, le référent parcours va aussi permettre finalement d'accompagner les familles en situation aussi de vulnérabilité. Voilà, c'est vraiment d'avoir en fait finalement un référent qui va pouvoir aussi accompagner dans ce process sur les décisions qui ont été prises, par exemple, lors de l'entretien prénatal précoce. Et ensuite, en deuxième idée aussi, c'est la création de Maison des Mille Jours, qui est décrite finalement peut-être comme un carrefour de rencontres et un lieu de ressources donc pour les familles.
Ça, c'est en développement ?
Alors oui, j'ai quelques exemples en fait sur les maisons des 1000 premiers jours qui ce sont finalement des espaces en fait de dialogue qui ont été créés dans différentes villes en France. Je pense que c'est en cours, j'avoue que j'ai pas toutes les données sur ce sujet, mais c'est en cours.
En fait oui, il faut, comme on disait, c'est un concept qui commence à prendre corps et qui prend corps dans des initiatives un peu locales, dans des territoires, c'est pas forcément que un programme national, et justement il y a certainement beaucoup d'initiatives locales très intéressantes mais qui peuvent rester un peu anonymes, peu connues. Et il faudrait vraiment déployer un effort pour évaluer ces initiatives, donc déployer de la recherche dans l'évaluation, donc, comme je le disais tout à l'heure, dans l'interventionnel. Et on a aussi un exemple important, donc, qui est celui sur lequel on travaille dans l'équipe, qui est celui du programme Malin, qui a commencé de façon locale et qui est en train d'avoir une mise à l'échelle un peu plus importante, qui aide vraiment les familles, qui apporte un soutien important aux familles en situation de vulnérabilité sociale pour les aider donc à avoir une bonne alimentation et à favoriser le lien mère-enfant autour de... parents-enfants d'ailleurs, autour de l'alimentation. Et donc Sandrine Nioré, une chercheure de notre équipe, mène elle un projet d'évaluation de ce programme, dont on attend les résultats avec impatience, parce qu'ils permettront vraiment de donner une légitimité scientifique, un gage d'efficacité, une preuve d'efficacité pour une mise à l'échelle plus large.
Est-ce que les maisons des 1000 jours, c'est pas un peu les PMI ?
Alors, en fait, je pense que c'est juste l'objectif n'est pas exactement le même, parce que la PMI, elle a quand même différentes fonctions aussi. Donc, les services de protection maternelle infantile, médicale, c'est aussi une coordination de plusieurs professionnels de santé. Je pense que la maison des 1000 premiers jours, ce qui serait intéressant, voilà, c'est vrai que j'aimerais bien aller voir en fait des exemples aussi de comment ça se passe finalement, parce que peut-être qu'il y a aussi des espaces de dialogue, mais entre les parents, enfin, c'est aussi.
Oui, c'est pas forcément
des professionnels, mais on n'est pas sur de l'aspect médical seulement. L'aspect relationnel,
un peu comme les pâtes au beurre de dialogue. Sophie
Warnopoulos. L'entraide entre pères est quelque chose qui s'avère être très important. On le voit dans les travaux.
Il crée ce genre de lieux qui permettent ça, des rencontres, des questionnements.
Le soutien entre parents lieux où on peut laisser son enfant pour aller faire une pratique d'activité physique adaptée pendant la grossesse, par exemple.
Et aussi, j'ai tellement l'impression qu'il y a justement eu des messages sur les recommandations nutritives. J'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas que manger des légumes, c'est mieux que manger des chips, quoi. C'est ça que parfois, je me demande, est-ce que vous êtes obligé de faire, du coup, dans les PMI ou ailleurs, est-ce qu'on est obligé de répéter
C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'alléguer des messages et des injonctions sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut donner des outils, donner des trucs et astuces, des aides réelles et concrètes pour aider les familles à s'emparer de ces messages qu'ils peuvent entendre souvent, mais pas forcément facilement, de façon réaliste. Liste intégrée dans leurs habitudes.
Mais c'est comment intégrer du bon sens à une pratique ? Quelles seraient vos recommandations, par exemple ?
Oui, en fait, comme j'expliquais aussi au préalable, il y a différents programmes de prévention qui ont été mis en place, par exemple, sur l'alimentation, d'autres je pense, pas encore suffisamment mis en avant sur l'activité physique. Après, voilà, il y a aussi des recommandations internationales, par exemple sur l'allaitement maternel de l'OMS, qui prône l'allaitement maternel les 6 premiers mois de l'enfant. Après, c'est vrai que, comme dit Barbara, il y a vraiment cette question aussi de l'appropriation, finalement, des messages et de la façon dont on peut les transmettre en tant que professionnel de santé, en tant que aussi sage-femme. Et je crois que, voilà, il va être important de prendre en compte aussi l'environnement social, l'environnement de vie, les conditions actuelles aussi de la famille, et de pas aller vers des injonctions et de dire bon, il faut manger voilà 5 fruits et légumes par jour, il faut faire ci, il faut faire ça, mais plutôt d'accompagner finalement la famille.
De pourquoi il faut faire ça,
pourquoi
aussi,
d'expliquer les choses.
Oui, je comprends, non, parce que j'essaie, c'est vrai, il y a quelque chose d'assez de bon sens, et j'ai l'impression que c'est ça, c'est plutôt l'intégrer vraiment dans un, et puis après on peut avoir des préjugés sur les fines, enfin que ça peut coûter plus cher, oui. Peut-être qu'on connaît pas les recettes, peut-être,
fin... et d'encourager aussi, c'est-à-dire que même un changement qui est, enfin, que je qualifie de voilà, mineur, en tout cas, voilà, déjà le fait de changer quelque chose, par exemple de réduire sa consommation de tabac, voilà, c'est déjà bien, ça aura un effet aussi bénéfique, et voilà, donc d'encourager les familles et de les accompagner en ce sens, quoi.
Pour essayer de comprendre, en fait, Barbara, c'est quoi le lien entre la consommation de tabac et l'obésité infantile ?
Oui, oui. Alors, ça peut paraître surprenant de constater cela, parce que on sait bien que fumer pendant la grossesse entraîne un plus petit poids de naissance. Mais malheureusement, ce petit poids de naissance est suivi par une croissance rapide, et une croissance rapide du poids, alors que la taille, elle, ne grandit pas plus vite dans les premiers mois de vie, et ça entraîne un risque plus important de développer un surpoids pendant l'enfance et ultérieurement.
Finalement, il faudrait ne pas fumer pendant sa grossesse.
Oui, s'il y a vraiment, pour moi, le facteur majeur sur lequel il faudra intervenir pendant la grossesse, plus que l'alimentation ou l'activité physique, c'est vraiment le tabac, parce qu'il agit sur beaucoup de systèmes, et le surpoids est une des conséquences parmi d'autres.
En fait, on a eu beaucoup de messages sur l'alcool pendant sa grossesse. J'ai l'impression que ça y est. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'études devant moi, mais que c'est complètement intégré. Et la cigarette, c'est vrai qu'on se dit ah, on peut encore un peu fumer, c'est mieux. Il y a même des médecins qui disent ah, bah gardez votre réduisez, mais consommez les 5 cigarettes si vous êtes trop énervé. Il vaut mieux garder cette consommation là.
Oui, oui, c'est vrai, parce que j'ai expliqué tout à l'heure qu'en effet, il faut être, vigilant aussi dans la façon de transmettre les choses. Mais je disais que voilà, réduire sa consommation était déjà mieux que rien. Mais bien évidemment, je pense qu'il est important de préciser qu'en fait, la recommandation, c'est de ne pas fumer pendant la grossesse, parce que comme explique Barbara, ça peut influencer le développement de l'enfant par rapport à la question de l'obésité, mais en fait, pas que, quoi. Donc, en effet. Mais sur l'alcool, c'est vrai que je pense que la majorité de la population
c'est plus intégré,
est plus intégré, mais sur le tabac, peut-être que les conséquences liées à la consommation de tabac ne sont pas encore tout à fait connues par tous, en tout cas en lien avec la grossesse. Donc voilà.
On parlait des trucs et des moyens, des trucs et astuces un peu tout à l'heure. Le site des 1000 premiers jours mis en ligne par Santé publique France est très bien fait de ce point de vue-là, pour bien comprendre de façon pratique et concrète ces recommandations. Donc, ils ont des petites pages par pièce de la maison pour voir qu'est-ce qui est bien de faire dans l'aménagement, etc. Et donnent des conseils pratiques, des recettes. Aussi, la question de l'activité physique, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui l'est moins. Donc,
c'est un bon site de référence, en tout cas.
Voilà, oui, oui.
Alors, vous nous alertez aussi sur la difficulté à ne pas stigmatiser ni culpabiliser les mères avec tous ces messages. Qu'en est-il ?
Ah oui, en effet, la grossesse, c'est en fait une période quand même spécifique. Les femmes, voilà, on va leur transmettre beaucoup de messages aussi à cette période sur beaucoup de choses, sur l'alimentation, comme vous dites, l'activité physique, la consommation de tabac. Attention, il ne faut pas manger ça aussi par rapport au risque alimentaire. Et du coup, il y a ce sentiment peut-être aussi d'être un peu submergé en fait par un nombre de messages. Donc, je crois qu'en tant que professionnel de santé, donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà prioriser aussi les mesures de prévention en fonction du problème médical aussi, ou par exemple, ou de la situation de la femme. Et puis, de ne pas en effet aller vers des discours injonctifs, mais plutôt les accompagner dans cette démarche et peut-être les accompagner aussi sur comment finalement adopter un changement sur l'alimentation, par exemple.
Oui, donc nos travaux de recherche, quand on communique autour de ça, c'est vrai qu'on met vraiment le projecteur sur la maman et donc on marche un peu sur un fil quand on communique pour éviter cette culpabilisation et cette stigmatisation aussi. Quand on parle d'inégalité sociale, il faut qu'on fasse très attention, donc on est assez sensible à ça. Mais ça nous incite aussi à déplacer un peu le curseur de nos travaux, non plus sur des aspects comportement individuel, mais plus ce qu'on appelle les aspects contextuels, donc l'environnement proche de vie des familles qui pourraient être plus propices à l'adoption de ces comportements, et comme par exemple à la pratique d'activités physiques adaptées.
Et en fait, on a une deuxième partie du projet qui porte là-dessus, sur vraiment la compréhension des différents déterminants sociaux qui peuvent influencer les comportements de santé des familles. Et donc, je regarde actuellement, par exemple, le rôle de l'environnement urbain, aussi l'accès aux soins, et puis aussi les facteurs finalement autres, type psychologiques, qui peuvent aussi influencer en fait les comportements de santé.
Et est-ce que ça évolue un peu? Est-ce que ces messages sont entendus?
Je pense que même, oui, là, il y a une prise de conscience, de s'intéresser au contexte aussi de vie, aux différents facteurs contextuels, en fait, qui peuvent aussi influencer des événements de santé comme le surpoids de l'enfant, les comportements de santé des familles, et qu'on peut pas, en fait, seulement, en effet, travailler que sur le comportement individuel si derrière, il n'y a pas non plus, un engagement, je pense, des politiques de
et
prévention.
Des pouvoirs publics, quand même.
Ouais.
Et aussi, vous m'avez dit un truc que j'ai entendu et qui était assez positif. Finalement, vous dites que les chiffres de l'obésité infantile ne grossissent pas forcément.
Il y a un manque de données en France quand même, mais les quelques données qu'on a rassemblées montrent que la prévalence de l'enfant n'a plus tellement augmenté, du surpoids de l'enfant, pardon, n'a plus tellement augmenté au cours de ces 15-20 dernières années. Donc ça peut paraître rassurant, mais là où on veut mettre un point de vigilance, c'est que ça traduit quand même des inégalités sociales qui se creusent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être rassuré trop à tort sur ces chiffres.
Merci Marion, merci Barbara d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci à vous pour l'invitation.
Et puis n'hésitez pas à aller cliquer sur les autres liens pour écouter d'autres épisodes d'Accouche. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure. Accouche est un podcast de la Fondation Mustella. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustella.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.